Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. J'ai lu un article tout dernièrement intitulé « Comment l'anxiété du confinement affecte votre concentration ?» Comment l'anxiété du confinement affecte votre concentration ? C'est un article écrit par la BBC. Dans cet article, il parle de commencer une tâche et au bout de quelques minutes, nous pouvons être distraits. Le manque de concentration est un problème dont souffrent beaucoup de personnes de nos jours. Mais il y a un domaine où nous avons besoin vraiment de nous concentrer, c'est la méditation. Aujourd'hui, j'espère vous inciter à méditer davantage en vous montrant justement les bénéfices de la méditation. C'est ça le titre de ce sermon, les bénéfices de la méditation. La méditation est un outil. Mais pour que ce soit un outil bénéfique, nous avons besoin justement de nous concentrer. Ce n'est pas une corvée, c'est un outil. Et il faut donc s'en servir comme tel. À quoi sert la méditation? Qu'est-ce qu'elle apporte? Quel est le but de la méditation? Avant d'élaborer les bénéfices de la méditation, j'ai voulu vous parler de plusieurs choses et j'ai voulu commencer par ce qu'elle n'est pas. Par exemple, l'inquiétude n'est pas la méditation. Ce n'est pas une façon de méditer, ça empêche même la méditation, la bonne méditation. L'inquiétude, c'est quelque chose qui est négatif, où l'esprit est axé sur, par exemple, un souci, une préoccupation que nous avons. Et comme j'ai dit, ça nous empêche de méditer sereinement. Le Christ nous précise dans Matthieu chapitre 6 de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc point. Quand il parle des oiseaux du ciel, les lits des champs, et quand il parle du lendemain. Philippiens chapitre 4 verset 6, je m'y rapporte pas. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Une des définitions données par le lexique Lueur, c'est le fait d'être préoccupé par des soucis. Et la méditation, ce n'est pas le fait d'être préoccupé par des soucis. Le Christ nous a montré l'importance de la prière, l'importance du jeûne, et dans sa confrontation avec Satan, que nous trouvons mentionné dans Matthieu chapitre 4, le Christ a précisé qu'il fallait vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour connaître toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bien entendu, nous avons besoin d'étudier. La méditation est un outil pour mieux nous servir de l'étude, pour mieux prier et pour mieux jeûner. Par exemple, avant de prier, c'est bon que nous puissions méditer sur ce que nous allons dire au préalable. Quelque chose peut-être que nous n'avons pas compris dans notre vie et que nous allons demander à Dieu de nous éclairer. Qu'est-ce que la méditation donc? La méditation est un effort mental où on s'est efforcé de considérer un thème dans ses nombreuses facettes. Autrement dit, c'est un travail mental qui exige un effort pour réfléchir sur un sujet particulier. Il y a une autre définition que je pourrais vous donner. C'est une réflexion profonde et continue et délibérée, intentionnelle, de l'esprit sur un thème unique. Je répète, c'est la réflexion profonde, continue, délibérée ou intentionnelle de l'esprit sur un thème unique. C'est marqué dans Colossiens chapitre 3 et le verset 2, je n'y m'y rapporte pas, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il est question d'approfondir ou d'étudier un sujet particulier. La méditation est un art et c'est une discipline aussi. C'est du travail, mais c'est aussi un enrichissement de l'esprit. Et c'est difficile de nos jours à cause du rythme de travail que nous connaissons. Tout est en accéléré de nos jours. Et nous pouvons facilement nous laisser emporter par toutes sortes de choses. Angus Bible Dictionary précise entre autres que c'est délibéré, que la méditation est délibérée et continue. Cela devrait faire partie de notre vie et ça devrait occuper une place importante dans notre vie. Mais pourquoi faudrait-il que nous méditions? Quel est le but de la méditation? Nous méditons pour améliorer notre comportement chrétien, pour améliorer, pour approfondir notre compréhension de la vie chrétienne, de voir la perspective de Dieu sur un sujet précis, la perspective de la Bible, pour que nous puissions justement avancer, pour que nous puissions mieux nous comporter. C'est quelque chose qui est extrêmement positif, qui peut nous aider à être davantage motivés en tant que chrétiens pour que nous puissions être plus proches de Dieu, pour que nous puissions mieux comprendre ce que nous étudions et comment la mettre en pratique. Jacques chapitre 1 verset 22, je m'y rapporte pas, Jacques chapitre 1 verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ». Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est pour que cela ait une incidence directe sur nos vies, un bénéfice de comment nous vivons. Nous pouvons méditer sur une voie, sur une action, et voir l'aboutissement de cette voie, de cette action. Et la méditation nous donne, si on le fait correctement, une meilleure perspective de la vie, une meilleure perspective de notre vie et comment vivre davantage en conformité à la parole de Dieu. Psaume 119 et le verset 59. Psaume 119, verset 59, j'y m'y rapporte pas non plus. Je réfléchis à mes voies. À mes voix, par rapport bien sûr à la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit dans certains domaines précis? Quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous écoutons des sermons, qu'est-ce que j'ai compris? Je continue, psaume 119, verset 59, et je dirige mes pas vers tes préceptes. Et je dirige mes pas vers tes préceptes. D'autres traductions utilise le mot « méditer ». Le rabbinat, par exemple, dit ceci. « J'ai médité sur mes voies », et là, c'est donc du passé, « j'ai médité sur mes voies » et « ramené mes pas vers tes statuts ». Nous pouvons méditer sur nos voies par rapport à la voie, à la loi de Dieu, et ramener nos pas vers la loi de Dieu. Voilà pourquoi c'est nécessaire de méditer et nous récoltons les bénéfices. Proverbe, chapitre 4, verset 26. Proverbe, chapitre 4, verset 26. Nous lisons ceci. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Loueur, lexique loueur parle de peser, considérer pour ce mot. Évidemment, il s'agit de voir nos voies par rapport à la voie de Dieu. Et c'est intéressant parce que dans Proverbes chapitre 5 et le verset 6, nous avons le même mot qui est utilisé. Le contexte est différent. Il s'agit ici de la femme immorale. Nous allons lire à partir du verset 5 pour voir un petit peu le contexte. Ses pieds descendent vers la mort. Il s'agit donc de la femme immorale. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Elle ne considère pas le chemin de la vie. C'est une femme immorale, donc elle pêche. Et la méditation, justement, permet d'éviter de pécher. Un chemin va toujours quelque part. Et il nous faut considérer notre chemin par rapport justement à la voie de Dieu. Satan, bien entendu, ne veut pas que nous considérions notre chemin. Comment est-ce qu'il nous empêche de considérer notre chemin? Tout simplement, entre autres, par des distractions. Et c'est l'ironie parce que nous avons plus de temps libre maintenant, mais nous avons beaucoup plus de distractions aussi. Nous sommes sollicités de toutes parts. Voilà une raison supplémentaire de méditer pour que nous puissions considérer le chemin de la vie, le chemin qui va à la vie éternelle. Il y a une autre raison aussi pour laquelle il faut méditer, c'est que nous savons qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Proverbes chapitre 15 et le verset 28. Proverbes chapitre 15 et le verset 28. Quelques pages plus loin, nous lisons ceci. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répond des méchancetés. La version Ostervalt traduit ce verset de la façon suivante. Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre. Mais la bouche des méchants profère des choses mauvaises. Parce que quand nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, il y a une façon de répondre, il y a une façon de parler. C'est un domaine spécifique dans notre vie. Le juste médite pour donner la bonne réponse, pour faire du bien à son prochain, parce qu'il aime son prochain. Et puis dans le Nouveau Testament, nous trouvons une consigne biblique, Philippiens chapitre 4, à partir de verset 6. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais nous allons le relire pour voir le contexte de ce qui va suivre. Verset 6, donc, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Puis le verset 7 qui suit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera nos pensées en Jésus-Christ. Pas sur les choses éphémères de la vie, pas sur les choses qui nous font du mal, mais sur les choses spirituelles, les choses qui sont éternelles. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À propos du mot pensée, Strong's parle de prendre un inventaire. Et Lueur traduit ce mot, entre autres, comme considérer, tenir compte de, peser, méditer sur. C'est donc un but que nous avons. Que tout ce qui est mentionné dans le verset 8 soit, comme c'est marqué, l'objet de vos pensées. Que nos pensées soient dirigées vers ces choses. Ostervelt parle de « occupe vos pensées » et le semeur « nourrissez vos pensées ». Et nous avons besoin donc d'avoir nos pensées axées sur ces choses. Bien entendu, il y a la vie de tous les jours avec ses défis quotidiens, mais en mettant l'accent sur ces choses qui sont mentionnées dans le verset 8, nous pouvons mieux faire face justement à ces choses pratiques de la vie quotidienne. Comme c'est marqué dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. » Il y a une autre question qui est importante quand il s'agit de méditer, c'est quand faut-il méditer? Et ce faisant, nous allons commencer à voir les bénéfices de cette même méditation. Probablement, nous n'associons pas la méditation avec le fait d'être heureux. Regardons Psaume chapitre 1, le verset 1. Psaume chapitre 1 et le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas. Donc il parle de quelqu'un qui est heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire qu'il évite ce genre de conseil. Il évite la mauvaise voie et il évite de se trouver en compagnie des gens qui lui font du mal. Mais ça continue dans le verset 2. Cet homme qui est heureux, justement, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il le fait, il médite la loi de Dieu parce que il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. C'est le point de départ pour lui. Elle occupe une très grande place dans sa vie de tous les jours. Et par voie de conséquence, il la médite jour et nuit. Il la médite très souvent, parce qu'elle est très importante pour lui. Nous voyons également un bénéfice de la méditation, et non des moindres. Nous voyons le lien qui existe entre le fait d'être heureux et le fait de méditer la loi de Dieu. Un bénéfice considérable. Si nous regardons Josué chapitre 1, verset 8, nous voyons de nouveau l'importance de méditer. Josué chapitre 1 et le verset 8. C'était juste après la mort de Moïse, et avant que les enfants d'Israël prennent possession de la terre promise. Mais commençons avec le verset 7 pour voir le contexte. Verset 7, Josué chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il est question de réussite ici. Ensuite, le verset 8. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Le commentaire biblique, en anglais, Expositor's Bible Commentary, précise que son esprit devait être saturé avec le contenu. Il devait réfléchir, méditer pensée très souvent, pas d'une façon accidentelle. La méditation devait prendre une place importante. Et dans le verset 7 et dans le verset 8, il est question d'agir fidèlement. Et d'agir fidèlement, d'après le verset 8, en méditant. Le rabbinat, la version rabbinat nous donne une traduction intéressante parce qu'elle rejoint ce que nous venons de lire dans Psaume chapitre 1. Je cite, « Ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et nuit afin d'en observer avec soin tout le contenu, car alors seulement tu prospéreras dans tes voies, alors seulement tu seras heureux. » Le mot « heureux » qui revient comme c'était indiqué dans Psaume chapitre 1. Bien entendu, pour bien méditer, il nous faut choisir un moment propice, où il n'y a pas de distractions. Un moment tranquille. Nous avons tous le temps de méditer si nous voulons vraiment le faire et si nous choisissons un moment propice dans la journée. Colossiens chapitre 4, verset 5, je m'y rapporte pas. Colossiens chapitre 4, verset 5 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors et rachetez le temps. » Nous avons besoin de racheter le temps parce que le temps est précieux. La méditation de pair avec la prière et l'étude de la Bible quand nous jeûnons fera en sorte que notre jeûne sera beaucoup plus profitable. Dans le premier volume de son autobiographie, M. Armstrong raconte la première fois qu'il a jeûné. Il n'avait jamais jeûné auparavant, mais il se trouvait dans une situation extrêmement difficile. Sa femme était enceinte, mais aussi malade, et il se trouvait dans une situation financière très difficile. Il avait demandé à Dieu de guérir sa femme, et jusque-là, sa femme n'avait pas été guérie. La situation devenait critique. C'est à ce moment-là, en jeûnant, qu'il a commencé à étudier une heure à la fois, suivi par une heure de contemplation et de pensée, comme il le dit, et suivi après par une heure de prière. Il a continué ce processus jusqu'à la fin du jeûne et Dieu l'a exaucé d'une façon remarquable. Sa femme a été guérie et ses parents sont arrivés avec de la nourriture et avec du bois pour se chauffer. C'était au mois de janvier. Quand nous jeûnons, c'est très bénéfique de méditer et quand nous jeûnons, nous pouvons prendre le temps pour méditer, pour étudier et pour prier davantage. J'ai voulu revenir sur le psaume chapitre 1 ainsi que Josué chapitre 1 verset 8 pour vous montrer d'autres bénéfices, d'autres fruits, d'autres bienfaits de cette méditation. La méditation devrait faire partie de la vie d'un chrétien. Mais continuons, si vous voulez bien, dans Psaume chapitre 1 et le verset 3. C'est là, donc la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. Psaume chapitre 1 et le verset 3. Donc, cet homme qui est heureux, cet homme qui a plaisir de la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit, il y a autre chose qui lui arrive. Dans le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce même mot est traduit différemment dans le second. Il est traduit, par exemple, entre autres, par prospérer, par succès. Et le lexique loueur parle également de prospérer et
faire des progrès. Faire des progrès. Revenons maintenant, si vous voulez bien, à Josué chapitre 1, et la deuxième partie du verset 8. J'avais lu la première partie dans la version seconde tout à l'heure. Nous allons lire quand même tout le verset pour ne pas oublier tout le contexte. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est là que nous sommes arrivés tout à l'heure, tout au moins avec la version seconde. Mais poursuivons, car c'est alors, quand Josué justement aura médité la loi jour et nuit, nous voyons les conséquences, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le mot en hébreu, traduit en français par succès ici, c'est le même mot de ce que nous avons vu dans Psaume chapitre 1, verset 3. Il s'est traduit par réussite. Le Shuraki traduit ce passage de la façon suivante. Oui, alors tu triompheras en ta route. Tu triompheras en ta route. Josué a triomphé. Josué et Israël ont progressé dans leur conquête. Regardons un petit peu pour voir ce qui s'est passé par la suite. Parce que justement, Josué a médité la loi de Dieu. Il y a eu un résultat. Il y a eu un bénéfice. Et nous ne sommes heureux quand nous progressons dans la vie aussi. Josué, toujours, chapitre 11 et le verset 15. Josué chapitre 11, le verset 15, nous lisons « Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse », donc il était bien imprégné de ces ordres, il était au courant. « Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » Et Dieu l'a béni. Dieu a béni les enfants d'Israël à ce moment-là. Il a eu du succès dans ses entreprises et il a réussi. Verset 16, toujours le même chapitre, verset 16. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne Nou qui s'élève vers Seir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. C'est parce que Josué n'a rien négligé de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, grâce, entre autres, à la méditation, qu'il a pu s'emparer de tout ce pays. Ils ont progressé. Verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après le tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Ils ont vraiment progressé. Nous savons que la Bible est un ensemble, c'est un tout, et nous trouvons la même chose dans le Nouveau Testament, où il est question de méditation et de progression. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 15. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 15, nous lisons ceci. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il est question ici de retourner, de repasser quelque chose dans l'esprit.
Et Luer précise que c'était un mot utilisé par les Grecs pour la réflexion méditative. Osterwald traduit ce passage de la façon suivante. Médite ces choses, sois-en toujours occupé, afin que tes progrès soient évidents en toutes choses. Il y a donc ce lien entre la méditation et le progrès. Le progrès, c'est un bénéfice considérable. Psaume 119 est un psaume écrit par quelqu'un qui est passionné par la loi de Dieu. C'est un éloge de la loi de Dieu. Et ce qui est intéressant, où il est beaucoup question de la loi de Dieu, il est question de loi, parole, commandement, précepte, ordonnance, statut, tout ce qui constitue la loi de Dieu, c'est quelque chose de très complet, mais dans cet éloge à la loi de Dieu, il est aussi question de méditer. Strong précise que le mot traduit en français par méditation ou méditer, par implication, ça veut dire converser, par exemple, avec soi-même. Converser avec soi-même. Et je trouve que ce concept très intéressant, c'est ce qu'on peut faire quand nous méditons. Nous conversons avec nous-mêmes. Je vais vous donner les références où il est question de méditer dans ce psaume. Et vous pouvez regarder ça tranquillement chez vous pour voir le contexte. Et pour constater que celui qui a écrit le psaume, qui aimait tellement la loi de Dieu, passait aussi du temps à méditer. Le premier verset, c'est le verset 15. Verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Il sait où il faut aller. Quel chemin il faut prendre, quelle voie il faut prendre. La voie de Dieu. Verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Le contraste entre ceux qui font du mal et celui qui médite les statuts de Dieu. Verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Ceci nous donne un des sujets que nous pouvons méditer, qu'on peut regarder le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Les merveilles de ta loi constituent un sujet de méditation. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. C'est son désir le plus profond de vouloir méditer les statuts de Dieu. Verset 78. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Il a pris une voie opposée, une voie de paix, la voie de Dieu. Et le verset 148. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux. Pourquoi? Pour méditer ta parole. Beaucoup de zèle pour méditer la loi de Dieu. Sa façon de procéder, nous le retrouvons dans le verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Le mot ici est un peu différent, mais c'est la même racine des mots que nous venons de regarder dans le psaume 119. Le mot que nous venons de voir dans les 6 références que j'ai données dans le psaume 119, nous le trouvons également dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 20, Il est question ici d'un bénéfice supplémentaire.
Proverbe chapitre 6, verset 20.
Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche et te parleront à ton réveil. Parleront, c'est le même mot traduit par méditer dans Psaume 119. Parce que quand nous méditons sur les préceptes et sur les enseignements de nos pères, de nos mères, ces préceptes, ces enseignements nous parlent, nous viennent à l'esprit, nous guident, nous parlent. L'abbé Pierre était connu surtout pour le fait d'être quelqu'un qui bâtissait. Ce qui est moins connu, c'est le fait qu'il savait méditer. Et les deux choses dans sa vie allaient de pair. Lorsqu'il était chez les scouts à l'âge de 14 ans, il a reçu un totem. Il faut savoir qu'un totem, c'est le nom d'un animal qui est attribué à un scout et qui représente son physique et son caractère, auquel on associe un qualificatif qui pointe sa personnalité. Et le totem qui était donné à l'abbé Pierre à l'époque, quand il était scout, était Castor méditatif. Castor, qui donc démontrait ce côté bâtisseur, mais méditatif parce qu'il savait méditer, parce qu'il méditait beaucoup. Et ces deux aspects de son caractère, de sa personnalité, allaient de pair. Il a reconnu lui-même que sans cette méditation, il n'aurait pas été capable de faire ce qu'il a fait dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il faut méditer? Quels sont les sujets de méditation? Psaume 77 et le verset 13. Psaume 77 et le verset 13. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Et Lostevin traduit ce verset de la façon suivante. Je méditerai sur toutes tes œuvres. Je méditerai sur toutes tes œuvres et je considérerai tes hauts faits. C'est le même mot que ce que nous avons déjà vu dans le psaume chapitre 1 et dans Josué chapitre 1, traduit par méditer dans le second. Méditer sur les œuvres de Dieu nous donne tout un éventail de multiples sujets. Et nous voyons ce même thème dans le psaume 143 et le verset 5. 143 et le verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Et quand nous méditons sur les œuvres de Dieu, les bénéfices sont multiples. C'est déjà positif, extrêmement positif, de voir la création de Dieu, de voir la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, ne peut que nous être bénéfique, d'élever notre esprit et d'élever notre esprit vers Dieu. Les fruits de l'esprit ne sont pas faciles à mettre en pratique. Mais nous pouvons regarder le caractère même de Dieu et constater, par exemple, la bonté immense de Dieu. Et ceci, à ce moment-là, va nous inspirer quand nous méditons sur la bonté de Dieu. Déjà dans nos vies personnelles, nous pouvons voir l'immense bonté de Dieu. Surtout par les temps actuels que Dieu nous a protégés. Dieu nous a protégés, Dieu nous a délivrés, Dieu a répondu à nos prières. Dieu nous a inspirés pour prendre des bonnes décisions. Dieu nous a donné la sagesse et Dieu a ouvert parfois des portes, par exemple, pour le travail. Et même si, à l'heure actuelle dans nos vies, il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous allons comprendre. Parce que Dieu, justement, est bon. Exode, chapitre 34, et le verset 6. Exode, chapitre 34, et le verset 6. Décrit l'immense bonté de Dieu. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité, le Darby parle de grande en bonté. Le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, parce que Dieu est bon, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais Dieu pardonne. Dieu est infiniment bon. Le contexte ici, c'est intéressant parce que c'est juste après le veau d'or, et avec l'intervention de Moïse, c'est marqué dans Exode 32, verset 14, je le cite seulement, Exode 32, verset 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Même quand nous avons péché et que nous nous repentons, Dieu est bon. Nous voyons dans la Bible des exemples des hommes qui se sont repentis et où Dieu était bon, très bon, après le repentir. Nous connaissons l'histoire de Samson et comment sa vie s'est terminée. David a commis l'adultère. Il a fait tuer Uri par l'épée. Mais David s'est repenti d'une façon très profonde. Il a beaucoup souffert. Mais plus tard, Dieu l'a béni, Dieu a étendu sur lui sa bonté, et comme c'est marqué à la fin du premier livre de Chroniques, je lis le chapitre 29 et le verset 28, chapitre 29, verset 28, je n'y rapporte pas, il mourut, David, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses, et de gloire. Dieu était bon avec David, une fois qu'il se repentit. Manassé était un fils d'un roi juste, Ézéchias, mais il n'a pas suivi les pas de son père. Il a fait beaucoup de mal aux yeux de l'Éternel, et comme c'est marqué dans la Bible, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Manassé était emporté à Babylone, en captivité, et nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 12, 2 Chroniques 33, verset 12, je m'y rapporte pas, lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, parce que Dieu est bon. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il la ramena à Jérusalem, dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il a pu recommencer une autre vie. Job s'est repenti. Et après se repentir, et après qu'il a prié pour ses amis, il a reçu plus de bénédictions de la part de Dieu qu'auparavant. Et il a même eu 7 fils et 3 filles. Il est mort, âgé et rassasié de jours. Il y a d'autres exemples bibliques, comme Pierre, comme Paul, comme l'église de Corinthe, où il y a eu du repentir et où Dieu était très bon après leur repentir. Et pour nous, c'est la même chose. Comme c'est marqué dans Romains chapitre 5, verset 8, je ne m'y rapporte pas, Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la Bible nous dit qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. On trouve ceci dans Psaume 103. Romains chapitre 2 et le verset 4. Romains chapitre 2 et le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Les richesses de sa bonté. Ça rejoint ce que nous avons lu tout à l'heure dans Exode 34. Où Dieu, en parlant de lui-même, parle comme quoi il est riche en bonté. Je reprends Romains chapitre 2 et le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Parce que Dieu est bon, il nous permet de faire quelque chose qui est contre la nature humaine, pour que nous puissions prendre un autre chemin et pour que nous puissions aller vers la vie éternelle. Et en méditant sur la bonté de Dieu, par exemple, nous pouvons être inspirés à mieux prier Dieu. La méditation est à la fois un trait d'union entre l'étude de la Bible et la mise en pratique de la Bible, et c'est aussi un trait d'union entre l'étude de la Bible et la prière. Je voulais terminer ce sermon en utilisant 2 homonymes. D'abord, le mot ancré dans le sens qu'on utilise de l'encre, N-C-R-E, accent d'aigu, et ancré, comme on peut ancrer un bateau pour l'empêcher de dériver, A-N-C-R-E, accent d'aigu. D'abord, le mot ancré, E-N-C-R-E, accent d'aigu, parce que la méditation permet d'imprimer dans notre cœur et dans notre esprit la parole de Dieu. Ensuite, le mot ancré, A-N-C-R-E, accent aigu, parce que la méditation nous apporte de la stabilité. C'est un ancre dans notre vie. Ceci nous évite des mauvaises pensées, nous évite de nous éparpiller, de nous égarer loin de la voie de Dieu.